Il est 8h, soyez les bienvenus sur France Inter. Voici le journal de Sarah Guibaudot. Bonjour Sarah.
Bonjour. On commence par cette information France Inter de saison en cette période de pluie d'étoiles filantes. Le parc national des Cévennes devient une réserve d'étoiles. Explication dans un instant. Au Mali, les électeurs ont massivement boudé le second tour de la présidentielle. La participation n'est que de 22%. À Gaza, la crise sociale est attisée par le gel de la contribution américaine aux Nations Unies. Reportage dans ce journal. La guerre contre les pesticides serait déclaré selon Nicolas Hulot. Pourtant, en France, la bataille parlementaire contre les lobbies est mal engagée, nous racontera le député La République En Marche, Mathieu Orphelin. On y revient aussi à 8h20 avec votre invité, Eric.
Deux invités, Karima Deli, l'eurodéputée écologiste, et également Marie-Monique Robin, la journaliste d'investigation. Elle a réalisé le documentaire Le Monde selon Monsanto. Et vos questions, les auditeurs, à nos deux invités, c'est au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Dans ce journal, vous découvrirez aussi un refuge pour les poissons rouges à l'aquarium du Trocadéro à Paris et le voyage à Nantes à un pas de côté dans l'art contemporain pour s'émerveiller.
France Inter.
Dans les Cévennes, on est aux premières loges pour profiter des étoiles filantes de cette mi-août. Et pour cause, avec une politique volontariste de réduction de la pollution lumineuse, le parc national doit se voir décerner aujourd'hui le label de réserve de ciel étoilé. Ce sera la 13e réserve d'étoiles au monde, la 2e en France après le pic du Midi. Imaginée au départ par des astronomes pour préserver des zones pour observer les étoiles, donc, il profite aussi à la biodiversité, Sophie Bécherel.
Devenir réserve de ciel étoilé, c'est d'abord préserver l'existant qui est exceptionnel. Anne Le Gille est directrice du Parc National des Cévennes.
On peut voir la Voie lactée à l'œil nu et sur un guide de valeurs qui va de 16 à 23, la valeur moyenne de la qualité de ciel du Parc National est de 21. 23 étant le niveau de pureté d'un ciel de désert.
Le label, c'est finalement un engagement de tous pour mieux contrôler la lumière artificielle. Il ne s'agit pas de tout éteindre, précise l'astronome Sébastien Vauclair.
L'idée globalement dans ces questions de pollution lumineuse, c'est de enfin commencer à réfléchir un petit peu à l'usage qu'on fait de la lumière. Il y a un engagement global de tous les acteurs du territoire pour améliorer le parc d'éclairage public, c'est-à-dire surtout d'éviter la lumière qui part vers le haut, la lumière trop agressive, etc. Donc il ne s'agit pas de tout éteindre, mais d'éclairer surtout mieux et globalement également un peu moins, parce qu'en général on éclaire trop.
Les communes devraient voir leur facture électrique baisser, mais en évitant le recours aux fameuses LED qui donnent une lumière blanche. Elle a un double défaut, elle génère des halos lumineux agressifs et perturbe le sommeil. Même les animaux sont affectés par la pollution lumineuse. Ce qui au départ était une demande des astronomes s'avère profiter à des publics plus larges. C'est ainsi qu'au pic du Midi, l'autre réserve française, on croise désormais des cyclistes qui se régalent en montant les cols pyrénéens les nuits de pleine lune à la seule lumière de leurs phares.
Le risque d'orage violent est désormais écarté sur la plupart des départements. Hier soir, c'est en Auvergne et dans les Pyrénées-Atlantiques qu'ils ont été les plus forts avec de la grêle. Ce matin, Météo France maintient en alerte orange 4 départements dans la vallée du Rhône. Ils sont soupçonnés d'avoir blessé 7 jeunes à Beaune en proférant des injures racistes dans la nuit du 30 juillet. Les deux trentenaires au casier judiciaire déjà bien rempli ont été mis en examen et écroués hier soir à Dijon. La veille de la fusillade, ils seraient venus en Bourgogne régler un différend au sujet d'une voiture prêtée.
La crise financière en Turquie inquiète les bourses mondiales.
La monnaie turque a perdu près de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année et le gouvernement doit annoncer ce matin des mesures d'urgence présentées comme une riposte au complot américain selon la formule du président Erdogan. La crise diplomatique s'est envenimée au sujet d'un pasteur américain emprisonné pour terrorisme alors que le gouvernement refuse de laisser remonter les taux d'intérêt pour ne pas pénaliser la croissance turque. Au Mali, seuls 22% des électeurs sont allés voter hier au second tour de la présidentielle. Il est vrai que leur sécurité n'était pas assurée dans le centre et le nord sous la pression des groupes djihadistes et que le sortant Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, semble assuré d'être réélu. Marie Matigot.
À l'heure du dépouillement, dans ce bureau de vote de la capitale malienne, le verdict est sans appel. Il y a deux fois moins de votants qu'au premier tour. Ce que déplore cet électeur, Abdoulaye Babadiara.
Il n'y a pas trop d'affluence, les gens ne veulent pas sortir. C'est peut-être dû au fait qu'il pleut. et également la courte durée de la campagne explique un peu la démotivation en tout cas des uns et des autres.
Également l'insécurité. Le second tour a été maillé de violences, des bureaux de vote saccagés, des urnes volées, des électeurs intimidés. Un président de bureau de vote a été tué dans la région de Tombouctou. Cécile Kiengé est la chef de la mission d'observation de l'Union européenne.
On renouvelle aussi notre demande, c'est la demande aussi de la communauté internationale pour redoubler d'efforts dans la sécurisation des bureaux de vote, surtout dans les zones du centre et du nord. Nous, on peut observer, on peut suivre, mais il y a la justice qui doit faire son cours.
Le gouvernement a jusqu'à vendredi pour publier les résultats provisoires, le temps de faire venir tous les procès-verbaux dans la capitale. Bamako, Marie Matigo, France Inter.
Un an après la mort d'une militante antiraciste à Charlottesville, les suprémacistes blancs n'étaient finalement qu'une poignée rassemblée hier soir à Washington. Le livre qui va faire l'actualité aux États-Unis, c'est celui d'une ancienne conseillère de Donald Trump, licenciée en janvier dernier. Elle accuse l'équipe du président américain de mensonges et de racisme, elle-même est noire, et elle compte produire des enregistrements réalisés dans la salle de crise ultra sécurisée de la Maison Blanche, où tout appareil électronique est normalement interdit. Dans la bande de Gaza, la décision de Donald Trump de geler la contribution américaine met en difficulté l'Office des Nations Unies chargé des réfugiés. L'UNRWA a annoncé un grand plan de licenciement dans le territoire palestinien déjà au bord de l'explosion sociale. Écoutez le reportage de Marine Vlaovic.
Le visage creusé, Mustapha Rachid est allongé dans la cour du quartier général de l'UNRWA, sa lettre de licenciement à la main.
Voilà, c'est le courrier qui dit que je dois quitter mes fonctions le 31 août 2018.
Voilà 5 jours que cet assistant social a entamé une grève de la faim.
Pour quelqu'un qui vit dans la bande de Gaza, perdre son travail, c'est comme être condamné à mort. Avec mon salaire, c'est déjà difficile de m'en sortir. Et comment vais-je faire sans travail ?
L'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens a annoncé une vague de licenciements sans précédent. Au total, 950 postes sont menacés dans la bande de Gaza. Le programme de santé mentale communautaire est à l'arrêt, ainsi que les emplois aidés qui concernaient de 10 à 20 000 personnes. Mais en raison de la décision américaine de suspendre sa contribution de 300 millions de dollars, l'UNRWA n'a pas d'autre choix, selon Adnan Abou Asnan, porte-parole de l'agence.
L'UNRWA est obligée de prendre ces mesures. Il n'y a pas d'argent. Tout a été tenté et malgré tous ces efforts, seule la moitié du déficit a été comblée. Que peut-on y faire ?
L'inquiétude pèse également sur la rentrée scolaire de plus de 260 000 écoliers de l'enclave palestinienne. L'UNRWA pourrait retarder l'ouverture de ses écoles. Gaza, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
Le navire Aquarius cherche à nouveau un port européen pour débarquer des naufragés de l'exil en Méditerranée. 141 personnes sauvées vendredi au large de la Libye, que Malte refuse d'accueillir et que l'Italie ne semble pas vouloir aider non plus. En juin, c'est l'Espagne qui avait finalement ouvert ses portes à l'Aquarius et au Lifeline. La France avait finalement accueilli une partie de leurs passagers, 130 personnes, comme Salah, un Érythréen de 24 ans qui refait sa vie en Isère, où Delphine Evenou l'a retrouvée.
Dans le jardin du centre d'accueil temporaire de la Verpillière, la musique résonne, une odeur d'épices parfume l'air. Salah et ses deux amis érythréens offrent le repas, une crêpe garnie de ragoût et de riz. Ils fêtent une grande nouvelle, arrivée quelques jours plus tôt.
Aujourd'hui, je suis tellement heureux. Je fais la fête. Je suis officiellement un réfugié. C'est le début de ma nouvelle vie. Je remercie la France et les Français.
Salah Safer serre des mains, discute. Il veut oublier la dictature en Érythrée, la torture en Libye pendant un an, son canot pneumatique à la dérive en Méditerranée, fin juin. Le jeune homme ne pense plus à sa survie, mais à son avenir.
Je voudrais m'installer à Lyon et puis sur une formation pour devenir mécanicien automobile.
Le traitement de la demande d'asile de Salah s'est fait en accéléré, même pas un mois. C'est Morgane, intervenante sociale au centre Adoma de la Verpillière, qui l'a accompagné pour les premières démarches.
Alors Salah, il est toujours souriant. Il est content, je pense, d'arriver dans un lieu où il a vraiment pu se poser après ce long périple et avec ses amis. Là, ils ont vraiment envie de très vite être dans l'insertion, de trouver du travail.
Formation, couverture santé, logement pérenne, Salah a encore de quoi faire. Il devra aussi suivre des cours de français et une initiation aux valeurs de la République. C'est dans le contrat passé avec l'État.
Et retrouver la nouvelle vie de ce réfugié également sur franceinter.fr.
Des menaces de grève chez Air France KLM.
Oui, Air France KLM, sans patron depuis le mois de mai, a promis de tripler le salaire de son futur PDG pour attirer les candidats. Un peu gros pour le SNPL, premier syndicat de pilotes de la compagnie, qui lance cet avertissement sur le site du Parisien. Le futur patron devra reprendre les négociations sur les salaires ou alors il y aura 15 jours de grève. La condamnation spectaculaire du groupe Monsanto aux États-Unis serait rien de moins que le début d'une guerre contre les pesticides, déclaration du ministre Nicolas Hulot hier à BFM TV. Mais en France, la bataille est mal engagée face à la pression des industriels. Mathieu Orphelin, député La République En Marche, peut en témoigner. En juin, il avait déposé un amendement au texte sur l'alimentation pour interdire le glyphosate en 2021, rejeté. Il a raconté à Laurence Perron les coulisses du débat.
Chaque jour à l'Assemblée, nous recevons des mails de lobby nous proposant des amendements préécrits. Des fois, ils sont même mis en page avec la mise en page de l'Assemblée nationale. Nicolas Hulot a raison de dire que les fabricants de produits phytopharmaceutiques, de produits pesticides, sont des lobbies plutôt puissants et bien organisés. On l'a vu au cours de la loi agriculture et alimentation. Par exemple, on avait des amendements forts qu'on a réussi à faire passer pour limiter au maximum l'usage des pesticides tueurs d'abeilles, des pesticides néonicotinoïdes. Et ben, on a pu récupérer des mails issus des firmes qui incitaient un certain nombre d'acteurs influents à faire pression pour que les amendements que je portais ou que portaient d'autres députés comme Delphine Bateau ne soient pas adoptés. Donc effectivement, il faut que tout ça soit enfin transparent, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. On change les choses, il faut changer les habitudes, il faut changer les façon de faire, et ça c'est un autre lobby important, c'est le lobby de l'immobilisme.
Le mauvais feuilleton Parcoursup continue pour 66 000 jeunes qui attendent encore une place dans l'enseignement supérieur. À moins qu'il ne soit beaucoup moins, c'est ce que pense le ministère de l'Éducation. En tout cas, une bonne partie ne répond plus, Mariam El Kurdi.
Si 16 000 jeunes attendent encore de savoir où ils seront inscrits à la rentrée, selon le ministère, 50 000 ont disparu des radars de Parcoursup. De quoi se poser quelques questions, selon Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES-FSU.
Certains peuvent être partis dans le privé, d'autres ayant renoncé. Et on sait aussi que la procédure de validation des vœux, par exemple, est extrêmement contraignante. Il faut valider dans les 24 heures. Ce qui est sûr, c'est qu'il va rester des places. Mais est-ce que ça va correspondre véritablement à leur choix? C'est un autre sujet.
C'est la question que se pose Kylian, tout juste diplômé d'un bac sciences et technologies de la santé et du social. En attendant de passer le concours d'entrée en école d'infirmier, il espérait s'inscrire en licence de psychologie ou de sanitaire et social. Étant toujours sur liste d'attente, il a dû revoir ses choix.
Pendant la phase complémentaire, j'ai fait un vœu en première année commune médecine. C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais je préfère faire une année de médecine qu'une année à rien faire.
Chaque jeune aura une affectation à la rentrée au plus près de ses vœux, promet Jérôme Teillard, chef du projet Parcoursup au sein du ministère.
Beaucoup de formations ont le début de leurs enseignements dès le 3 septembre et donc vont fixer des dates limites d'inscription qui sont au 27 août. Et ce mouvement-là va aussi créer des opportunités pour des candidats que nous allons accompagner pour trouver cette place dans l'enseignement supérieur.
Encore un peu de patience donc, et à partir du 5 septembre, il n'y aura plus de vœux en attente, promet aussi le ministère.
Il avait un poster de Renaud Lavillenie dans sa chambre d'ado. Hier, le prodige Duplantis a détrôné son idole au championnat d'Europe d'athlétisme à Berlin. Le Suédois de 18 ans remporte l'or au saut à la perche avec une barre à 6,05 m. Le champion tricolore a dû se contenter du bronze. Un poisson rouge dans un bocal ne deviendra pas grand. C'est ce que rappelle l'aquarium du Trocadéro à Paris, dont une des attractions phares est un refuge pour poissons rouges. Une cinquantaine de spécimens sont déposés chaque mois par leurs propriétaires. Le reportage d'Hugo Charpentier.
Ils sont des dizaines, des poissons rouges dans un grand bassin à l'entrée de l'aquarium. Certains dépassent les 20 cm. Étonnant, pas tant que ça en fait.
Vous n'êtes plus habitué à voir des poissons rouges de la bonne taille.
Alexis Povilevitch est le directeur de l'aquarium du Trocadéro.
Accueillir un poisson rouge dans un bocal, c'est pas bien parce que, comme tous les animaux qui sont contraints, ils arrêtent de grandir.
Le poisson rouge a besoin d'évoluer dans un aquarium de 100 litres, équipé d'un système de filtration de l'eau. Autrement, cela revient à le tuer lentement. Certains propriétaires l'ont bien compris et se présentent spontanément à l'aquarium.
Il y a deux catégories. Les parents consternés parce que leur enfant a gagné lors d'une fête foraine un poisson rouge. La deuxième catégorie, ce sont des particuliers qui se rendent compte que le poisson ne peut pas rester dans ces conditions. Et là, ils nous les apportent.
Une démarche qui plaît beaucoup aux visiteurs, comme Mathieu.
Je pense qu'ils sont beaucoup mieux ici qu'abandonnés dans une fontaine ou dans un étang ou dans un lac.
Lui-même possède d'ailleurs un poisson rouge.
On s'en occupe bien.
Et pourtant, face au directeur, Mathieu va vite déchanter.
L'aquarium fait 100 litres.
100 litres.
Non, non, non.
En fait, vous élevez votre poisson à la dure. Donc il va vivre 3-4 ans. Alors que dans la nature, ce serait 10 ans.
On a un autre aquarium plus grand dans la cave. Pourquoi pas essayer de le changer, de mettre l'aquarium plus grand.
Mathieu peut aussi le laisser ici, dans l'un de ses bassins. Avec 4 millions de litres d'eau disponibles, il reste de la place pour de nombreux poissons rouges.
Le voyage à Nantes vous propose cet été de faire un pas de côté. C'est le thème de ce parcours d'art contemporain de 12 km qui enchaîne les surprises, Isabelle Pasquier, comme cette volière à guitare.
Non, ça n'est pas du Jimi Hendrix. Ce sont 100 mandarins d'Australie que l'artiste Céleste Boursier-Mougenot a installés dans une volière avec 20 guitares électriques. Et ce sont les oiseaux qui produisent les sons en se baladant sur les cordes. C'est l'un des délires poétiques de ce voyage à Nantes. Au cœur de la ville, on s'arrête interloqué par des sculptures en bronze. La sculpture d'une petite fille qui tente d'escalader le socle d'une statue pour s'y installer. Et c'est un éloge de la transgression. Plus loin, un homme en costume cravate marche, mais avec un pied dans le vide. Là, c'est l'éloge du pas de côté, des œuvres signées par Philippe Ramette, qui y voit aussi un pas de côté mental.
Il me semble que l'art ou l'art que je peux réaliser puisse ménager le fait d'assister à une forme de poésie, des moments comme ça extrêmement privilégiés, où finalement on sort de la fonctionnalité du monde et où on se permet ce temps suspendu de contemplation, de réflexion, et puis peut-être subir un peu moins le monde. J'aime en tout cas à penser qu'une sculpture puisse faire sourire. Le sourire a aussi une vertu particulière.
La preuve à Nantes, cet éloge du pas de côté a un succès fou.
Ça suggère le pas de côté qu'on peut faire dans la vie.
On a le droit de faire des pas de côté, c'est pas pour ça qu'on perd l'équilibre.
Ce voyage à Nantes perturbe l'espace public pour un joyeux dérèglement du quotidien quand l'art nous invite à faire des pas de côté dans nos vies.
Et si le prochain James Bond était incarné par Elba, Idris Elba? Depuis hier, un tweet de l'acteur britannique relance les spéculations. Connu pour ses rôles dans les séries The Wire ou Luther, Idris Elba serait le premier acteur noir à incarner 007, alors que Daniel Craig doit attirer sa révérence après un dernier James Bond l'année prochaine.
Le journal de Sarah Guibaudot. Le prochain point sur l'information, ce sera à 9h avec Corinne Audouin.